Les mains dans la pop.
Ok.
Les mains dans la pop.
C'est les mains.
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop.
Bonjour chers amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les mains dans la pop. Moi c'est Mao et en face il y a l'incroyable
Audrey.
On va parler actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime mais qu'on déteste en secret, qu'on déteste aimer, qu'on aime détester. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Je me permets de redire bienvenue, que j'espère que vous allez bien. Vous dire aussi de ne pas hésiter à écouter nos podcasts en replay si vous venez d'arriver dans cette grande histoire d'amour qu'est les mains dans la pop. Au sommaire aujourd'hui, l'exposition exposée sur la crise du sida dont nous parlera Audrey. Et on va aussi faire un gros débriefing du Met Gala qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dernier. Et le sujet du jour, qui n'est pas un sujet, qui est une personne qu'on est ravis de recevoir, c'est l'humoriste Tané. Bonjour Tané.
Bonjour. La foule en délire.
Ça va, la France. Alors écoutez, il était évident pour nous de l'inviter. Toutes les deux, nous la connaissons de par déjà son spectacle incroyable qui est à l'affiche à la Nouvelle Scène deux fois par semaine, s'il vous plaît, les vendredis et samedis à 21h30. Rien que ça, ça s'applaudit.
21h.
À 21h. Qui est-ce qui a cru qu'elle connaissait de mémoire, qui n'a pas regardé sur Insta? Lol, c'est moi. Tani est une humoriste engagée et je ne vous le cache pas, nous sommes besta du stand-up. Tu es une des personnes nécessaires de ce milieu, grâce à qui je survis notamment. Et en 2018, nous avons créé avec Lucie Carbone le Comedy Love, la première scène féministe et queer en France, qui est une première, un moment de bonheur. Hein. Voilà, bon, comment vas-tu?
C'était quoi ça?
J'ai décidé qu'on était comme OT et comme OT, je suis en gueule de bois, so I don't know.
Qu'est-ce que je dois réagir? Oui.
Alors bonjour, comment vas-tu?
Juste est-ce que tu vas, c'est tout. Pour l'instant, bonjour, c'est ça
va très bien. Ça va très bien, je suis très heureuse d'être avec vous.
Par politesse, tu peux demander à Audrey si elle va bien?
Mais... Est-ce que ça va? Vous allez bien?
Super bien, j'ai la voix un peu éraillée, j'ai trop crié en manif encore une fois, mais ça va.
C'est la meilleure raison. Je pense pas avoir la voix éraillée, merci d'avoir.
Et toi, ça va Mao? Je t'ai pas demandé.
Waouh, un peu passif-agressif. Je vais très bien, mon amour. Et je vais d'autant plus bien qu'on va commencer cet épisode en parlant d'actualité.
Oui.
Chaud tiède, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi avons-nous envie de vous parler? On va le faire en remettant des Césars, un petit peu genre loser, winner de la semaine. Qui mettons-nous en avant? C'est tout de suite maintenant. Win ou lose, telle est la question.
Quel loser?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Icône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine?
Roulement de tambour.
Mao, dis-nous tout. Est-ce que tu veux commencer peut-être par un loser, histoire de commencer sur une touche négative?
Absolument, c'est un loser et les mots sont faibles. La scène que je vais vous raconter s'est passée dans l'Ohio le 29 avril dernier et elle est lunaire. Okay. Alors qu'un brunch de drag queen était organisé. Un brunch de drag queen, un endroit terrible où se passent danse, chant et paillettes, de quoi quand même faire trépigner le monde à base de joie. Et je sais, ça met en péril certaines personnes, puisque visiblement, oui, une manif de nazis s'est organisée en face. Écoute, je sais que c'est une phrase qui ne devrait pas exister. Tu sais, ça me fait penser à rien. À rien du tout, tellement c'est un scénario qui est hyper étrange. Des nazis cagoulés de morphes soutes noires, qui sont des combinaisons comme ça, qui te recouvrent tout le corps et toute la tête pour qu'on puisse pas te voir, parce que le courage a ses limites. Tu sais, tu fais des croix gammées, tu hurles des chants nordiques, t'as des uniformes, des banderoles, tu fais un salut nazi, mais caché. Parce que quelque part, j'ai envie de croire que tu te doutes que c'est pas ok de rendre hommage au Troisième Reich, notamment responsable d'un génocide organisé de façon industrielle envers les juifs, les LGBT, les tziganes, les handicapés, il en fallait pour tout le monde. Donc, une vingtaine de gars, habillés aussi de t-shirt rouge avec un drapeau nazi, se sont mis en face avec une banderole sur laquelle était marqué « Il y aura du sang, there will be blood ». Je trouve qu'on dirait un épisode de Black Mirror, ça paraît tellement dystopique. Et voilà, et après ils ont intimidé la foule et puis chacun est rentré chez soi. Mais ça présage vraiment pas que du bonheur et de la réconciliation de peuple. Et je trouve qu'en plus les États-Unis, ça a toujours été un pays qui est complètement aux extrêmes, avec des plus et des moins, et t'as des clashs civilisationnels visiblement.
Surtout ce moment, waouh.
Alors remonte-nous s'il te plaît le moral maintenant.
Franchement là je pense que ça va vous remonter un petit peu momentanément. Okay. En tout cas, le moral. Moi, je vais vous parler du passage érotique du dernier roman de Bruno Le Maire.
Oh, yes.
Oh, mon Dieu.
Alors, je dis que c'est un winner parce que, en plus de m'avoir fait beaucoup, beaucoup rire, ça me motive parce que je me dis que si Bruno Le Maire peut sortir des livres aussi mal écrits, sans la moindre gêne, franchement, tout le monde ici autour de cette table peut se lancer et écrire un roman.
C'est
okay
clair.
Et donc, le ministre de l'économie et des finances n'en est pas à son premier roman. Il avait déjà écrit Musique absolue, qui était consacré à un chef d'orchestre, Carlos Kleiber, en 2012. 2012, et donc plus de 10 ans après. Il reprend la plume pour notre plus grand désespoir. Cette nouvelle fiction signée Bruno Le Maire s'appelle Fugue américaine. Il y a une seule étoile sur la Fnac.
Oh non.
Et ça parle encore de musique.
Si la Fnac te note mal, franchement, c'est vraiment que ça va pas. Hein.
Et en gros, je vous le résume sans vraiment peur de vous spoiler, parce que je me doute que vous allez pas l'acheter. En plus, c'est 23,50€.
Cher.
C'est un cher pour du papier cul.
Et donc, c'est l'histoire de deux frères originaires de New York qui partent à la Havane pour rencontrer un grand musicien. Mais bon, on s'en fout un peu. En fait, ce qui fait parler, c'est un passage précis de ce livre dans lequel l'un des personnages principaux, qui s'appelle Oscar, décrit ses ébats à la première personne, donc sous la plume de l'homme politique de droite. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Préparez-vous, brace yourself, parce que je refuse d'être la seule personne à être traumatisée. Alors... Je commence. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. « Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu Oscar ?» Ensuite, elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. « Tu viens, Oscar ? Je suis dilatée comme jamais. » Je suis vraiment désolée pour cette voix. Mais je peux faire qu'une voix un peu ironique comme ça, sinon
oui,
ça fait
c'est
pas.
Sûr.
Et puis enfin, il décrit donc les bas. Il dit « Et je la prenais en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. » On dirait vraiment une fanfiction mal écrite, au genre « Fifty Shades of Grey » version homme déconnecté de droite. De base, le livre parlait quand même de musique. Je sais pas comment on en est arrivé un anus brun et dilaté. En tout cas, ça a donné lieu à pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux, à juste titre. Ouais. Notamment sur Twitter, il y a la maîtresse de conférence Laëlia Véron qui a écrit « On a trouvé l'utilité sociale de Bruno Le Maire. Vous débarrassez de tout complexe de l'imposteur si vous souhaitez vous lancer en littérature. »
Merci les hommes.
Franchement. Ensuite, il y a le professeur d'histoire géo Olivier Varlan qui a écrit « Urgent, le gouvernement annonce la mise en place d'une cellule psychologique accessible depuis un numéro vert pour tous ceux qui seraient tombés par inadvertance sur les textes érotiques de Bruno Le Maire. Et franchement, mon préféré, c'est l'écrivain Thomas Hercouet, en fait, qui a mis un extrait érotique du bouquin de Bruno Le Maire dans ChatGPT. Donc c'est une,
ah oui, je crois que j'ai vu passer ça, ouais.
Une intelligence artificielle qui crée des textes et des conversations. Et en fait, il a mis cet extrait-là pour créer un texte sur la réforme des retraites dans le même style que Bruno Le Maire. Et donc, je vais vous lire un petit extrait. Il lui arrivait de soulever son dossier bleu clair pour montrer ses graphiques. Tu as vu comme ils sont élevés aujourd'hui. Il se jetait sur la table de réunion et me montrait le creux sombre de son déficit. Tu viens, Oscar, je suis prêt à réformer comme jamais.
C'est génial, c'est incroyable.
C'est vraiment génial. Et ça a beaucoup inspiré aussi les gens en manifestation le 1er mai, puisqu'il y avait des pancartes on en a plein le renflement brun. Ou encore pancarte dilatée comme jamais. Voilà, donc c'est vraiment inspirant. Et d'ailleurs, ça embarrasse le gouvernement, tiens donc. Parce qu'on lui reproche de passer tout son temps à écrire des envolées lyriques, érotiques, au lieu d'assurer ses fonctions, tout simplement. Surtout que c'est peut-être pas le bon moment de parler d'anus dilaté en pleine crise, quoi.
Pendant qu'on se fait...
Ouais, je suis pas sûre.
Ouais, c'est ça. Toi, je sais pas si tu as un
livre sous le coude.
Alors, non, mais j'ai vu une blague de Christine Verroux, qui est une humoriste, qui m'a fait rire aussi. C'est parce que quand il y avait eu la polémique sur les casseroles, quand Macron se rendait dans les villes, pour contrer ça, le gouvernement avait envoyer quelqu'un, Aurore Berger, je crois, dans une usine de casseroles. Wow. Du coup, elle disait, est-ce qu'ils vont envoyer quelqu'un dans un endroit pour contrer ce passage érotique sur les anus ?
Mais est-ce que t'as un loser de la semaine, une info qui t'a marqué ?
Pas de la semaine, mais je suis toujours un peu... Enfin, je suis toujours
fâchée contre Darmanin.
Contre Hugo Clément, il m'avait vraiment tendu là, avec son truc. Il était allé faire un débat chez Valeurs Actuelles pour parler d'écologie aux militants d'extrême droite. Il leur disait, votre projet, il n'est pas cohérent parce que peut-être que la planète ne va pas survivre, quoi. Mais du coup, ils ne remettaient pas en cause leur projet, quoi.
D'accord. C'était un débat à parts égales, alors qu'on parle quand même de l'extrême droite, quoi.
Bah oui, voilà, c'est ça.
Ça a participé à la banalisation de les prendre comme interlocuteurs, quoi. C'est
ouais, c'est ça. Il n'a pas voulu l'admettre.
Je comprends ton énervement.
Il n'a pas voulu s'excuser ?
Non.
Mais on dirait un homme, mon amour.
J'aime bien parce que, à chaque fois, on est choqués, mais bon, en même temps,
à quoi est-ce qu'on s'attend, quoi.
Ouais. Et ben en tout cas, je sais pas, peut-être que Mao, tu veux contrer un petit peu ça ou au contraire aller toujours dans cette veine du négatif.
Et je vais parler de Giorgia Meloni, qui est la première ministre italienne, qui est aussi une fasciste notoire, qui est la nouvelle grande méchante de l'Europe de l'Est et qui a décidé de faire un cadeau aux travailleurs et aux travailleuses hier pour le 1er mai, journée internationale de leurs droits. Alors qu'est-ce qu'elle a proposé d'après toi ? A, de la méchanceté. B, de la méchanceté. C, supprimer une partie des minima sociaux.
C. parce qu'elle est vraiment très méchante.
Bravo, en tout cas, tu es très perspicace d'avoir réussi à trouver ça, exactement. Pour encourager les travailleurs et les travailleuses précaires, elle a décidé de supprimer le revenu de citoyenneté. Alors, le revenu de citoyenneté avait été mis en place en 2019 par le mouvement 5 étoiles, qui était un mouvement de gauche, et c'était genre leur réforme emblématique. Donc, elle a décidé de tout détricoter. Et ce revenu, c'était une allocation de 550 euros, un peu l'équivalent du RSA, pour toute personne vivant en Italie depuis plus de 10 ans. Et ça avait permis, non pas à 1 million, non pas à 2 millions, non pas à 3 millions, à 4 millions de personnes de sortir de la très grande pauvreté. Et on sait très bien que, eh bien, ça va être terrible en termes de conséquences. Il va y avoir des suicides, il va y avoir des gens qui vont pas plus continuer leur vie, il y a des gens qui vont être encore plus précaires, exactement. Et puis moi, je me dis, mais le sens du timing de cette meuf.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, à Noël, je pense qu'elle avait, elle fouette tes neveux et tes nièces. En mode genre, si, c'est le père Fouettard qu'on célèbre aux anniversaires, elle doit supprimer les gâteaux. Enfin, cette meuf est juste terrible, quoi. Supprimer le revenu de citoyenneté, c'était une de ses promesses de campagne. Moi, je m'interroge toujours sur des gens qui votent pour quelqu'un qui dit, tu vois comment va le monde? On fait pire. Est-ce qu'elle va supprimer la joie à ce rythme-là? Quand les eurosceptiques étaient arrivés en Angleterre, tu sais, ils avaient dit, il y a besoin de faire des économies, on va supprimer notre forme de sécurité sociale. En disant, ça coûte trop cher. Bon, bah là, c'est le même truc. On dit que ça coûte trop cher. Ça avait coûté 8 milliards en 2022 de mettre en place cette politique en la restreignant. Ils ne gagnent que 3 milliards. Et c'est juste toujours le même truc, c'est que l'argent est ailleurs. Tu sais, c'est comme notre réforme des retraites. Il suffit de taxer vraiment, genre, Bernard Arnault, genre, les grandes multinationales qui ont des usines dans nos pays pour que tout aille mieux. Genre, Facebook. Bref, taxer les riches, comme dit Terre Brûlée d'Alternativa. Et puis, conclusion, un peu tristoune, une opposante de la première ministre qui s'appelle Madame Schlein, qui disait « Mélanie condamne les pauvres plutôt que la pauvreté ». Voilà, j'aurais pas de sur-punchline. Maintenant, peut-être tu peux nous proposer un winner.
Oh,
quelqu'un qui nous mettrait en joie.
Et ben moi, je suis toujours à fond sur le dernier album de Meryl qui est sorti.
Oui.
Et vraiment, elle me procure beaucoup de joie.
Trop
donc,
bien.
Voilà.
T'as été la voir en concert ou pas?
Ah. À Sanoa, c'était incroyable. Et j'ai déjà mes places pour le Zénith l'année prochaine. Wow. C'est mon échéance la plus lointaine. Je suis sûre que je serai là.
Audrey, est-ce que tu veux nous parler d'un loser?
Oui, alors vraiment, c'est un très gros loser aussi. Que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Même mon winner, c'est un loser finalement,
mais oui.
Donc désolé. Je vais vous parler de Dylan Thierry, qui est un influenceur. Il est belge, il est ancien candidat de télé-réalité. En fait, il a 28 ans et en fait, il a été connu parce qu'il a participé à Koh-Lanta en 2017.
Okay. Il est arrivé en mocassin sur l'île, donc ça fait le buzz. Il est arrivé pour faire le buzz.
Et donc, du coup, Booba, qui vraiment s'est érigé en lanceur d'alerte des figures de la télé-réalité, puisqu'il avait déjà dénoncé les agissements de Magali Berda. Il a alerté l'opinion publique sur le trafic d'enfants à Madagascar orchestré par Dylan Thierry. Et il y a des audios à l'appui. Et donc, sur les réseaux sociaux, l'influenceur, de manière générale, se montre assez souvent en sauveur blanc pendant des séjours humanitaires dans divers pays. Notamment, il était allé en Turquie après les séismes début février. Et donc, il y a des enregistrements qui sont sortis dans lesquels on entend la voix d'un homme qu'on présume être Dylan Thierry. Mmh. Et en fait, il élabore un plan qui s'apparente clairement à du trafic d'êtres humains et dans lequel il explique étape par étape comment il compte kidnapper une petite fille orpheline et monnayer son adoption de manière complètement illégale, bien sûr.
C'est horrible.
Et donc, il dit, venez à Madagascar. Ensuite, il me donne 100K, donc 100 000 euros. Et moi, je fais tout pour qu'il puisse adopter. Ensuite, il dit, pour sauver une petite fille, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote qui a une fille noire. Il va faire une déclaration de perte un petit peu plus tard. Et avec ce passeport, c'est comme si j'étais venue à Madagascar avec elle. Et moi, je repars en Europe avec elle. Il dit ça en toute détente. Voilà, donc évidemment, ça a fait polémique. Et puis dans une vidéo ensuite qu'il a lui-même publiée sur son compte Insta, bah, l'influenceur, il va confirmer l'authenticité de ses enregistrements. Il est un peu teubé.
Mais pourquoi?
Et il affirme qu'il se sent trahi par la personne qui a fait fuiter les audios, donc son agent. Voilà, il se sent trahi. Et il ajoute qu'il avait de bonnes intentions et que ce n'était que des paroles, qu'il n'était pas passé à l'acte. Moi, j'ai envie de dire, il n'était pas encore passé à l'acte.
Oh là là.
Voilà, donc selon France Info, les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta auraient saisi la procureure de la République de Paris à ce sujet. Et il n'en serait pas d'ailleurs à ses premiers démêlés avec la justice. Il fait déjà l'objet en fait de 5 plaintes pour escroquerie. En fait, il avait détourné les fonds récoltés pour son asso humanitaire qui s'appelle Pour nos enfants. Il est également dans le collimateur du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs à vie pour les mêmes faits. Et juste pour rappel, s'il vous prend l'envie d'aller sauver le monde à coup de voyage humanitaire de 2 semaines à 1000 balles, just don't. À la limite, si vous voulez aider, donnez de l'argent à des associations locales, reconnues... Ou alors, engagez-vous dans vos propres communautés à la hauteur de vos moyens et de vos connaissances, parce que personne n'a besoin de Marie-Christine qui veut empiler trois briques dans un village du Congo pour se la péter sur Insta. Ça, ouais. Vraiment, ça fait plus de mal que de bien. Renseignez-vous sur le sujet. Et donc, ce mec-là, il est également dans la sauce pour proxénétisme.
Ah, c'est donc pas que ça manquait de quelque chose.
Bah ouais, pourquoi tant qu'à faire.
Vraiment,
on comme Mélanie, quoi, allons plus loin.
Vraiment. Et en fait, il y a des audios également qui sont sortis sur le sujet, que Booba a également fait fuiter. Dans ces audios-là, on l'entend dire, en deux jours, on a monté un mime, donc c'est une application un peu comme OnlyFans, à 700 000 abonnés, on veut sauver les putes, de faire les putes, la pute, on la recrute, on lui crée un compte mime, et avec mon équipe, on fait monter son compte en abonnement pour lui donner 20% de ce qu'elle gagne, et nous, on se divise les 80%. Waouh, quel sauveur.
Ah ouais, c'est clair.
Il avait un vrai plan. Genre, en fait, si ça se passait à Dubaï, il était en mode, genre, on va avoir des prostituées dans la rue, on leur dit, on te sort de la rue,
bon, et on prend 80%, voilà, et voilà, il se prend pour un héros. Voilà, donc toutes ces accusations sont vraiment très très graves. On est tous d'accord autour de cette table pour le dire, mais pourtant, ça n'a vraiment pas l'air de le déranger, puisqu'il a tweeté récemment, je sais pas pourquoi je suis dans la sauce, moi je dors bien personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, hashtag good night. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, je sais pas quoi dire. Je lui souhaite beaucoup d'insomnie, de paralysie du sommeil, et de problèmes avec la justice, tout simplement.
Ah là 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 là.
Mais pas les mots. Un peu comme Sheriff Aluna.
Allez! Plutôt son ex. Oh oh oh!
Pardon. Allez, on passe au sujet du jour.
Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine?
Vous avez des idées?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas?
Elle a osé. Cette semaine, elle a osé parler, nous faire rire, nous donner de l'amour, nous donner de la force. C'est la grande Tani qui est avec nous, qui vous redit bonjour, parce que même si on s'est déjà rencontrés, ce podcast est divisé en petites chroniques, donc peut-être que quelqu'un l'écoute de manière individuelle. Bonjour Tani, comment
bonjour.
Ça va?
Bonjour.
Hello you.
Pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas déjà, shame, but whatever, je vais faire une bioff. Une bioff, c'est ta bio, bof. C'est pour en fait te permettre de parler aussi et de te raconter, parce qu'en fait, je vais raconter ton parcours avec des approximations ou des erreurs que j'aurais... Okay. Mise
comme l'horaire de mon spectacle.
Volontaire comme l'horaire de ton spectacle. Qui est à 21h à la nouvelle scène, on le rappelle, tous les vendredis, samedi. Et en gros, quand je dis une erreur, tu peux m'interrompre avec un buzzer imaginaire.
Ok.
Tu peux faire bip ou okay. Bravo les lesbiennes ou Alice Coffin.
C'est bien bravo les lesbiennes.
Alors ce sera bravo les lesbiennes.
Ouais, ah, j'adore.
En plus, c'était la journée de la visibilité lesbienne.
Tout à fait.
La semaine dernière. Alors commençons. Tani, tu es née en 1812.
Non, voilà. Bravo les lesbiennes.
Quoi? Une erreur déjà? Mais quand es-tu née? Raconte-nous tout.
Je suis née en 1990.
Oh waouh, tu es tellement plus jeune. En Saint-Germain-en-Laye?
Dans le 78.
J'avais mis dans le Nord-Pas-de-Calais à cause de ton sketch.
Et non, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, mais je suis née à Saint-Germain-en-Laye parce que j'aime naître dans des endroits quand même.
J'aime naître, comme si tu faisais souvent, tu sais, de manière régulière. J'aime naître.
Oui, je sais, avec Tours, parce qu'il faut savoir que ta mère habite à Tours. Souvent, on organise des festivals. Mais j'avoue, de ouf. Donc, tu es née à Saint-Germain-en-Laye, qui l'eût cru? Eh ben, tu vois, hein, même moi, j'apprends.
Mon père, waouh.
Oula, encore.
Mon père est fan du PSG.
Voilà, ok, c'est un fin juste à savoir. Et toi, quelle équipe de foot tu soutiens?
L'équipe de France lesbienne.
D'accord. Fun fact, fait marrant, tu croyais qu'on appelait tous les Noirs mon père parce que quand tu étais petite dans ton village, les seuls Noirs étaient le prêtre et ton père.
Bernet.
Est-ce que tu veux nous parler de ce que c'est de grandir en étant Noir dans un village où tu es une des seules Noires?
Je pense que je me rendais pas compte, mais le truc qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une autre petite fille métisse à Bernet qui s'appelle Séné. Salut à toi si tu nous écoutes. Et en fait, on nous confondait toujours, genre,
évidemment.
Disait, ah mais t'es pas Séné toi, non? Et voilà, et ce que je raconte dans le spectacle, c'est que surtout, j'ai ressenti plus un manque de représentation, quoi. Je me voyais pas forcément à la télé, dans les pubs, etc. Donc, beaucoup de complexes sur les cheveux, notamment.
Mais maintenant, on te voit à la télé, on te voit sur Internet.
Oh là là.
Merci.
J'ai grandi aussi dans un petit village qui s'appelait Sermoise-sur-Loire et j'étais l'une des seules personnes noires. Ah. Et tu sais que j'ai réalisé que j'étais noire, bah du coup, en étant confrontée à tous ces regards extérieurs. Et la première fois qu'on m'a demandé pourquoi t'es noire, je savais pas quoi répondre, quoi. J'étais là, mais je sais pas, moi. I don't
c'est
know.
Violent, ça, quand même. Moi, je me souviens aussi, j'ai fait de la danse, de modern jazz.
Oui.
Et du coup, je voyais que quand on se maquillait et tout, ils savaient pas quoi faire, les cheveux et tout, c'était la panique.
C'est toujours le cas. Non,
désolée.
Ah, moi j'ai une anecdote quand même.
Ça, c'est plus par rapport à.
Mais moi qui m'avais grave
marqué. Au fait que j'aime pas trop me maquiller.
Non mais attends. Ok. Mais tu peux me dire bravo les lesbiennes et m'interrompre si tu trouves que j'exagère trop l'histoire. Mais en gros, avec Tani, c'est vrai qu'on a un kink, c'est qu'on essaie d'avancer ensemble dans nos carrières, main dans la main. On se dit toujours que les choses arrivent en même temps. Par exemple, on croise les doigts pour le montrer cette année. Si vous nous écoutez, nous avons prévu de nous serrer la main juste avant de monter sur scène et de nous dire on y est, mon cœur. Bon, d'ailleurs, nous serons à Avignon toutes les deux au Théâtre du Bélier, je le précise, cette année. On fait notre première télé ensemble, qui était le Teva Comedy Show de la, scène de la chaîne Teva, qui fait partie du groupe M6.
Vous ne voyez pas Métani en train de pouffer de rire.
Non mais, et on était trop heureuses, genre, on s'envoyait grave des sextos et tout, textos amicaux, en se disant genre ouais, trop bien, on est ensemble et tout. Bref, on y va, on se maquille, on est maquillés trop mal. Et j'arrive dans les toilettes et Teva fait des ablutions. Et elle est en mode genre, meuf, je crois qu'il y a un problème de peau. Et franchement, je lui dis, genre, tu avais baissé 2-3 teintes, tu avais l'air pas ni blanche ni noire, mais jaune. Et on t'avait démaquillé à coups de sopalin dans les toilettes. Alors peut-être que j'ai exagéré, je te laisse me dire si j'ai
Ouais, non, mais oui, c'est vrai.
C'est vrai que t'as pas de maquillage.
Mais je me souviens qu'une autre fois, j'avais fait une télé et genre, moi, je leur avais dit, vraiment, je me maquille pas beaucoup, quoi. Faites comme si j'étais un mec, vraiment, moi, le maquillage, c'est pas trop mon délire.
Juste du teint pour pas avoir l'air.
Ouais, voilà, c'est ça. Et briller. Genre, la meuf m'a fait des mascaras, machin, avec du blush, enfin bref. Et du coup, c'était beaucoup trop femme pour moi, quoi. Et je suis allée dans les toilettes, j'ai couru et tout, j'ai essayé d'enlever un max. Et après, je me cachais, genre, je voulais pas recroiser la maquilleuse avant d'aller sur le plateau.
Ah, pour pas qu'elle voie.
Pour pas qu'elle voie qu'elle me fasse. Attends,
son travail, ouais. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que t'aimes pas te maquiller, il y a quand même un problème au niveau des teintes aussi pour les carnations.
Ça, c'est vrai. Ouais.
Bah, les personnes noires, quoi.
Oui, ouais. Non, ça, c'est clair.
Avant, en tout cas, ce problème de carnation, tu t'es passé à jeter les. Zap collège et lycée pour dire que tu as fait une école de commerce ou d'ingénieur.
Ingénieur. Bravo, de lesbienne, ingénieur, ouais.
Est-ce que tu veux raconter ces années BDE ? Parce que je sais que tu as essayé les hommes à ce moment-là, que c'est pas très bien passé. Que...
Ouais. Quel souvenir, beaucoup de fêtes. Et je pense effectivement le moment où j'explorais un peu, on va dire, ma sexualité. Et ouais, je pense que malheureusement, la société étant vraiment hétéronormative, j'essaie de me convaincre que oui, j'allais avoir des copains et tout, et qu'en fait, c'était pas vraiment mon désir réel, quoi.
C'est vrai. Non, mais parce qu'un jour, un de tes anniversaires, j'avais parlé avec quelqu'un qui avait été en classe avec toi. Et qui connaissait un mec qui était sorti avec toi.
Et on écoute tout de suite un audio.
Et on écoute tout de suite un audio de l'ex de Tali.
Et il arrive.
Il dit c'est bizarre, nous ne faisons pas l'amour. Non mais bon, je parle tout de suite de ta lesbiennité et du fait que tu es noire, puisque ce sont des éléments clés de ton spectacle et que tu revendiques fièrement. Et merci de le faire. Et ce spectacle, nous allons en parler. Il est incroyable, je l'ai vu. Parmi tes premières parties, tu as des jeunes femmes comme moi-même. Car, non mais là, c'est important de parler de l'action que nous avons eue ensemble dans le stand-up en 2018. On se rencontre lors d'un concours et puis on boit des bières, puis je te dis que je suis attirée par une meuf, mais que je suis pas sûre d'en parler, que je sais pas trop. Puis tu me dis si, viens, il faut en parler. Ensuite, on rencontre une autre copine qui s'appelle Lucie Carbone qui dit et venez, on essaie de mettre de l'amour dans ce milieu de merde, une ambiance toxique. Venez, on crée un truc qui s'appelle le Comedy Love où le but était juste déjà qu'on s'entende bien, que ce soit une aventure d'amis. Rien que ça, c'était une révolution dans le stand-up. Genre, venez, on s'aime et c'est pas l'enfer en coulisses.
On est bien les uns avec les autres.
Voilà. Et on met en avant, c'est vrai, des artistes plutôt queer et féministes sans en plus rejeter les hommes. On a toujours dit il y a aussi des mecs bien. Donc, on a fait jouer notamment Laurent Siama, Yacine Bellous, certains drag kings, certaines drag queens aussi qui sont incroyables. Bon, bref. Ce Comedy Love, depuis, ça a donné plein de bébés et c'est génial, mais c'est aussi copié par des grosses prods qui font du queerbaiting et qui utilisent ce qu'on a créé comme espace pour faire des émissions, puisque finalement, ça devient un bon branding. Et je profite quand même de ce moment pour dire que dans ce milieu, nous sommes encore vus de loin, alors que nous sommes la seule scène de stand-up qui a eu un article dans Les Inrecuptibles, qui a eu 4T dans Télérama, ce qui ne s'est pas fait ailleurs. Mais bon, à part ça, nous sommes de niche. N'oublions pas que nous n'existons pas. Tu crois qu'il y a de la colère dans ce que je dis ? Ça me fait à peine le seum. Bon, après, ça nous permet des moments de sororité inouïs. Par exemple, le 12 juin, on fait un énorme gala avec la Mute Up.
Incroyable. Venez.
Voilà, la Mute Up, c'est la scène créée par notre pote Loutre-Tignon, qui est le premier mec trans à faire un spectacle d'une qualité inouïe. Aussi à la nouvelle scène les vendredis à 19h. Sa scène, d'habitude, a lieu à la Mutinerie. Et là, on se dit, allez, gala de fin d'année, à l'Européen. On fait tout gratos pour reverser les fonds à la Pride des banlieues. Parce que d'ailleurs, le Comedy Love a toujours reversé des fonds à des assos.
C'était un volet important de ce plateau de stand-up, tout à fait. La solidarité.
Oui. De mettre de la solidarité dedans. Parce qu'on s'était dit, c'est pas grave, si on gagne pas d'argent, on n'aura que le plaisir. Et comme ça, ça sera vraiment Comedy Love. Bref, maintenant, on te voit en spectacle, en tournée. Tu fais aussi des chroniques, par exemple, pour Urbania ou Panga. Et sinon, je voulais aussi dire que tu es la pire love coach de tous les temps. Parce que
non, c'est
rappeler.
Faux. C'est faux. Bravo les lesbiennes, c'est faux. Cette info est fausse.
Bravo les lesbiennes.
En 2019, nous sommes à une ouette avec Tani. Et je lui demande comment parler à une meuf. Elle me dit, bah, fais-lui des compliments sur sa chemise. Parce que je trouvais juste très drôle de dire que chaque lesbienne a des chemises.
Tout à fait.
Et que ça pouvait vraiment être un angle. Tu as une très belle chemise aujourd'hui, fleurie, pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Non, bon, bref, bref, tu es immense de qualité. Je te laisse terminer. C'est terminé pour ta bief. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rectifier, quelque chose que tu veux dire avant l'interview d'Audrey?
C'était un très très bon résumé. Que dire? J'ai fait de l'impro aussi avant le stand-up.
Oui, putain,
et ça
c'est
m'a
vrai.
Beaucoup aidé à être l'impro. À l'aise sur scène, etc. Et voilà, non, je crois que tu as bien résumé mon engagement féministe, queer, antiraciste et de propager du love partout.
Bah écoute, moi, j'ai pour habitude de poser des questions un peu deep à nos invités pour essayer de les connaître en profondeur. Un petit peu comme si tu étais chez une psy trop chère ou alors un date Tinder un peu chelou et très intense. Voilà, donc installe-toi bien, vas-y. Je vais te poser des questions un peu deep. Alors, je vais enchaîner aussi sur le fait que voilà, tu es une femme humoriste, noire, lesbienne. Et donc, en tant que femme noire et lesbienne, ce monde est littéralement construit pour que tu échoues et que tu restes dans l'ombre. Et moi, je me demandais quel jour et comment, pourquoi tu t'es dit « Ben non, mais moi j'ai ma place, moi je vais le faire, je vais y aller, je vais monter sur scène et je vais faire des blagues. »
Ce que j'ai pas dit, ce pourquoi j'ai commencé à faire de l'humour, c'est que moi j'aimais beaucoup en regarder, voilà, Florence Foresti, Gad Elmaleh, etc. Et après, j'ai commencé aussi à aller à de plus en plus de shows, de stand-up et tout, parce que j'aimais bien ça. Et je pense que c'est le désir de dire autre chose, quoi, de raconter d'autres discours que je voyais pas forcément, à part peut-être à l'époque dans le travail de Charlie Soignon, humoriste noire, lesbienne de l'époque. Et du coup, ouais, j'avais envie moi aussi de parler de mes sujets, quoi, de parler des lesbiennes, de parler de mon coming out, de parler de mes réflexions justement sur mes cheveux, sur mon métissage, tout ça. Je voyais pas ce genre de prise de parole, donc je me suis dit, bah faisons-le, quoi.
Et justement, tu parles de trucs hyper intimes, c'est hyper vulnérable. Enfin, moi, personnellement, je trouve que monter sur scène et tenter de faire rire les gens en parlant de soi, c'est un des trucs les plus vulnérables qui soient. Comment tu gères ça? Est-ce que t'as toujours été à l'aise avec le fait d'être aussi vulnérable et de partager des parts aussi intimes de ta vie, de toi?
Je vais te dire quelque chose.
Dis-moi quelque chose.
C'est que je pense que je suis plus vulnérable en gardant toutes les choses pour moi. Je suis quelqu'un qui a été très timide à garder toutes ses émotions et ses ressentis à l'intérieur. Et pour moi, ça a plutôt été libérateur d'en parler, en fait, de pas garder ça que pour moi. En fait, il faut que les autres aussi, ils écoutent nos souffrances, nos problèmes, enfin, nos discriminations. Et c'est comme ça que le monde, je pense, va avancer. Donc, pour moi, c'était plus une force d'en parler. Et du coup, j'étais moins fragile parce que je me rendais compte que j'étais pas seule et qu'il y avait des gens qui étaient d'accord avec moi qu'on allait changer le monde.
Ouais. Et justement, en tant que femme noire et lesbienne, t'es fatalement confrontée à la fois au sexisme, au racisme, à la lesbophobie. Et est-ce que le fait d'en parler dans tes sketchs, c'est un moyen aussi peut-être de désamorcer un petit peu la bombe et de devancer certaines attaques?
Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était surtout sur le fait de dire tout de suite que je suis lesbienne. J'ai l'impression que du coup, les gens ne vont pas me faire des blagues potentiellement problématiques. C'était, je pense, anticiper, quoi, prendre les devants.
Et ça va, tu réussis quand même à faire ta place. J'imagine qu'il y a quand même quelques attaques. On n'y échappe pas forcément.
Ouais, surtout en ligne, je trouve. Un peu, c'est la force de la scène en face, comme le stand-up. En plus, c'est vraiment très... il n'y a pas de quatrième mur, donc tu t'adresses directement aux gens avec justement ta sensibilité, ta vulnérabilité. Et je pense que du coup... ils osent moins se lâcher, quoi. Enfin, j'ai rarement eu des trucs virulents.
Pas de tomates.
De face. Voilà, c'est ça. Alors que sur Internet, ils te voient pas, ils sont derrière leur écran et là, ils se lâchent, quoi. Okay. Mais donc, c'est pour ça aussi que je préfère la scène et que j'ai mis du temps d'ailleurs à me mettre aux vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que ça me faisait peur un peu, ce truc.
Oui, en ligne, les langues se délient beaucoup plus facilement, et malheureusement. Et est-ce que c'est plus facile de jouer devant une foule d'inconnus ou devant tes proches, étant donné tout ce que tu racontes dans tes sketchs?
Ça dépend des sujets. Ça dépend. Parce que quand je fais des blagues un peu familiales ou sur ma famille ou sur mon passé, je suis toujours un peu tendue ou gênée qu'il y ait des gens de ma famille dans le public. Mais
moi, j'ai peur de les décevoir surtout, je suis sûre que c'est ça. Moi quand il y a mes sœurs dans le public ou des trucs comme ça. Première fois que ma grande sœur m'a vu jouer, mais j'ai bidé ma mère.
J'ai pas peur de décevoir, j'ai juste... Je sais pas, j'ai...
C'était un des sujets abordés?
Ouais,
un peu peur. Que ce soit trop intime?
Ouais, peut-être, ouais. Okay. Et en même temps, après, si c'est devant les potes, j'ai trop hâte, quoi. Genre, j'ai trop envie de les faire rire et tout. Ça me stimule. Genre, je suis trop contente quand je joue mon spectacle et je sais qu'il y aura des potes, quoi. Je suis genre, oh là là, on va trop rigoler.
Et moi, je trouve que la joie, c'est politique. On en parlait beaucoup avec Mao, le fait de prendre de la place, de faire rire les gens. Ça montre, voilà, qu'on a le droit de prendre de la place. On a le droit aussi au relâchement, à la célébration. Est-ce que pour toi, l'humour, c'est ça aussi, c'est politique.
Ouais, carrément, parce que l'humour nous procure de la joie, donc du coup, c'est cool. Justement, avec le Comedy Love aussi, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait plein de personnes queer, notamment, qui venaient et tout, et qui nous disaient, bah nous, avant, on n'aimait pas le stand-up, ça nous agressait, on se sentait pas bien, et là, avec vous, on se rend compte qu'on peut trop rire de sujets qui nous concernent, et rire tous ensemble, et en fait, c'est trop bien le stand-up, et du coup, pour moi, ça, c'est révélateur que oui, l'humour est politique. Et,
Ouais, mais aussi parce que du coup, c'est des personnes concernées qui rient de choses qui les concernent, parce que ce qui pose aussi problème,
oui,
peut-être
voilà,
que c'était
c'est ça
qui les dérangeait, c'était quand t'as des gens pas concernés qui rient de toi, toi, quoi.
Ouais, mais c'était après, on n'a pas non plus qu'un public queer,
ouais,
mais du coup, c'est juste s'assurer que tout le monde rigole et que les blagues ne vont pas dans le sens des discriminations qu'un groupe de personnes subissent déjà, quoi.
Ouais. Et tu donnes des ateliers de stand-up, du coup, une fois par mois, si je ne me trompe pas.
Tous les deux mois, à la Flèche d'Or.
À la Flèche d'Or. Moi, j'aurais voulu savoir quel est ton tips préféré que tu donnes, justement, pour pouvoir écrire un sketch.
Ouais. Et ben, à chaque fois, le truc que je répète, c'est de partir souvent d'une émotion forte qu'on a ressentie, c'est-à-dire, moi je fonctionne un peu comme ça, je vais être très productive dans des moments de colère, ou dans des moments de tristesse, ou dans des moments d'extrême joie, ou des gros fous rires que j'ai eus, et je note ce qui m'a fait rire sur mon téléphone, et j'essaie de reprendre ça et tout, mais de partir de l'émotion, ouais.
Et qu'est-ce que ça fait de voir le fruit de ton tutorat un peu, et de tes conseils, parce que tu donnes des conseils, et puis ensuite les personnes montent sur scène, c'est ça ?
Ouais, je leur propose, c'est pas obligatoire, c'est si elles se sentent à l'aise, comme aux soirées stand-up de la Flèche d'Or, j'essaie vraiment d'instaurer une ambiance bienveillante, joyeuse. Et, donc du coup, je leur dis, voilà, ce soir, vous avez un public qui va être plutôt cool et tout, à votre écoute, empathique, etc. Donc si ça vous dit de tester vos textes, je leur demande pas d'apprendre par cœur, ils peuvent venir avec leur papier, leur ordi ou quoi. Voilà, une opportunité de jouer entre 3 et 5 minutes pour commencer. Je donne toujours un peu la priorité aux personnes queer et aux personnes racisées, et quand c'est des sujets dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou qui leur sont très important, je trouve ça chouette de voir aussi ça, quoi.
Toi, est-ce que avant ta carrière ou pendant ta carrière, t'as bénéficié de conseils, de mentors? Peut-être que t'as un ou une mentor.
Bah, j'en parlais tout à l'heure. Shirley Soignon a vraiment été un gros mentor, pas forcément sur l'écriture, mais en tout cas me donner des tips sur comment travailler, où aller jouer, les endroits où justement j'avais potentiellement un public plus à mon image ou qui allait me comprendre. Voilà. Et après, d'autres personnes, surtout des meufs. J'avoue, plus de la génération plus d'au-dessus, type Laura Domange, Marine Bausson, qui ont vraiment été force de proposition parfois pour améliorer quelques blagues ou me donner confiance. En fait, rien que ça, je trouve que c'est important. C'est un métier difficile avec beaucoup de stress et de doutes. Et du coup, avoir un entourage qui te booste et qui dise « mais non, c'est bien ce que tu fais, continue, lâche pas l'affaire » et tout, c'est important, quoi.
Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu parles pas mal du coup de représentation et de ton attachement aux représentations. Ouais. Surtout pour les personnes queer et noires. Et qu'est-ce que ça fait de savoir que peut-être que tu participes justement à ces représentations dans le paysage français? Il y a peut-être des meufs noires lesbiennes qui se disent « bah ouais, j'ai le droit de monter sur scène, j'ai le droit de faire rire les gens ».
Bah, je trouve ça trop cool, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, quand je suis allée jouer mon spectacle un peu en dehors de Paris ou sur les réseaux sociaux, de recevoir des messages de d'autres lesbiennes noires et tout qui me disent ça fait trop du bien d'avoir vu ton spectacle, j'ai l'impression que tu parles de moi, enfin que je me reconnais, ça fait du bien d'entendre ça de manière joyeuse et festive, et donc juste trop contente, quoi. Enfin, ça me procure beaucoup de joie aussi à moi-même. Et donc non, c'est chouette, c'est chouette.
Et d'ailleurs, en parlant de représentation, en partenariat avec le média Urbania, j'ai vu que tu faisais des petites capsules vidéo sur Instagram qui s'appelle Rencontre rêvée, et où tu te retrouves en tête à tête avec une figure historique du féminisme, donc un coussin affublé d'une photo de la dite personne. et je me demandais quel afroféministe t'as le plus inspiré.
J'en ai fait une avec Bell Hooks, que j'ai découvert tard, mais je me souviens que je l'ai lu au début quand je commençais le stand-up, et justement, en fait, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que être femme, être noire, être queer, ça faisait une intersection qui donnait lieu à des discriminations spécifiques. Ça a éclairci plein de choses dans mes réflexions. Donc, c'était vraiment génial de la lire. Après, j'ai fait une autre vidéo avec Myriam Makeba. Il y a eu Audrey Lorde aussi. Ça fait du bien, en fait. Surtout, ça me touche d'autant plus quand c'est des personnes, entre guillemets, de notre passé, parce qu'on a tendance à dire que voilà, le queer, c'est un phénomène de mode, etc., alors qu'on a toujours existé. on a toujours été là et ça m'émeut de savoir que ces personnes fabuleuses ont été là et donc qu'on s'inscrit dans ça. Quoi.
Ouais, grave. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera une vidéo en parlant de Tani.
De la vieille Tani.
Bah merci en tout cas, Tani.
De rien. Merci à vous.
Merci Tani, mon amour, d'avoir été avec nous. Je rappelle que ton spectacle est à 21h tous les vendredis et samedis à la Nouvelle Scène. On peut te follow sur Insta. Allez voir ses chroniques, c'est génial. C'est @TaniLautre, T-A-H-N-E-E, l'autre. Et est-ce que tu veux donner une invitation pour ailleurs ?
Bah oui, pour le spectacle le 12 juin, donc à l'Européen, Stand-Up Queer, donc Comedy oui. Love et Mutop Comedy Night, à l'Européen le 12 juin. Voilà, si c'est vous ça. Voulez, on vous invite.
Ah oui, trop venez bien. Avec plaisir. En plus, on a fait baisser les prix pour que les personnes les plus précaires puissent venir. On
et
vous
tout,
attend pour une vraie teuf d'amour.
Vont à la Pride des banlieues.
Oui, et donc qu'on salue, et qu'on aime, et à qui on fait des bisous.
Génial, en plus, le 12 juin, c'est mon anniversaire, donc je pense que
j'ai trouvé. Tu sais où tu es, alors ?
Incroyable !
Grave. Quel beau cadeau.
Je grave. La chanson.
Tu verras aussi.
Oh mon dieu, j'aurais jamais dû
ah
dire
bah
ça.
Oui. Mais viens, c'est obligé. Ok,
tu
on fait
me faire
ça.
Monter sur scène.
Non. Le consentement avant tout.
Non, non, par contre, on chantera.
Je suis prévenue. On vous attend aussi.
Aïe. Oula, le feu, ça brûle.
Ça me fascine.
Au bûcher.
Ok, ok, ok.
Ding dong, c'est la sorcière.
N'importe quoi.
C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. Ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Alors, qui vais-je brûler aujourd'hui, Tani ? Eh bien, ça va être Karl Lagerfeld. Et je vais aussi parler de la chatte de Karl Lagerfeld.
Oh,
titre,
wow.
Lol. Qu'adorait le couturier de la maison Chanel décédé en 2019 et qui était mis à l'honneur hier au Met Gala à New York. Alors, à défaut de parler de l'homme, c'est pour ça que j'ai un peu envie de parler de son chat, son animal de compagnie, qui, à mon avis, était toujours une meilleure personne que lui. Puisque l'homme, parlons-en un petit peu, était un grossophobe émérite qui avait notamment, je sais pas si tu te rappelles de ce gate, interdit à la chanteuse Adele de porter ses robes.
Ah oui.
Alors que moi, j'ai envie de te dire,
oh là là.
Elle te faisait une faveur, mec, parce
c'est
que ton
clair.
Style, c'est chemise blanche, cravate, mitaine en cuir. C'est pas ce que j'appelle une révolution stylistique. Ça dénonce humoriste engagé. Sa propre marque à lui, Karl Lagerfeld, qui proposait des jupes en cuir, des chemises, des mitaines et tout, d'ailleurs, était en déficit constant. L'ego du mec, quoi. Il pense que tout le monde veut s'habiller comme lui, alors qu'au mieux, on se déguise en lui à Halloween. Volontairement, il n'ouvrait ses collections pas aux grandes tailles. Grande taille, c'est-à-dire du 40. C'est te dire ce qui est considéré comme être gros ou grosse. Une association de mannequins qui s'appelle Model Alliance a dénoncé cette dissonance de l'industrie de le mettre en avant comme ça, alors que le gars était vraiment une des pires personnes. Il avait notamment dit une phrase « Personne ne veut voir de femmes rondes ». Alors moi, je pense que ça, c'est la blague préférée d'Ashley Graham. Ou de son compte en banque. Le gars disait aussi que le trou de la sécu, c'était la faute des gros. Je sais, on dirait un personnage cliché de Groland. Et la chanteuse Lizzo a voulu faire un pied de nez et elle est venue au Met Gala avec une très belle robe et des frites à la main qu'elle mangeait goulûment. Ce type est affreux, tu vois. Dans un PMU, le type qui est ivre et qui dit que des conneries. Et ben moi, je pense que ce mec-là, c'est le mec qui raisonne Karl Lagerfeld à côté. Il a dit que des horreurs. Quand des mannequins ont dénoncé les violences sexuelles du milieu, il a dit « Mais si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin. Rejoignez plutôt les Ursulines de l'Union Romaine. Il y aura toujours une place pour vous au couvent. Ils recrutent d'ailleurs. »
Oh là là.
Donc dans la tête de Karl Lagerfeld, tu es soit violée, soit bonne sœur. Tu imagines à quel point l'éventail d'identité féminine est large pour celui qui habillait les femmes et qui les détestait de ouf. Alors il manque un truc. Le mec était aussi raciste. Un homme à multiples facettes. Il était aussi xénophobe. Quand Angela Merkel, parce qu'elle était allemande, je le rappelle, ouvre les portes de son pays aux migrants en 2017, qui était un acte fort, c'est d'ailleurs la seule chef de gouvernement qui a décidé d'avoir une ouverture à l'arrivée massive de migrants, lui a voulu dénoncer sur le plateau de Thierry Ardisson « Salut les terriens ». On ne peut pas tuer des juifs, puis faire venir leurs pires ennemis après. Moi je comprends pas. Quand je te dis que c'est le mec Yves du PMU, ça n'a même plus de sens. Donc c'est pour ça qu'à défaut de rendre hommage à l'homme, certaines stars sont venues grimer en chat, le chat Choupette.
Ah, j'adore.
La seule personne qui pouvait apparemment piffrer Karl Lagerfeld, puisqu'elle ne pouvait pas parler. Doja Cat est venue un petit peu grimer. Jared Leto, l'acteur est arrivé avec un énorme costume de chat.
That's why.
Et la chatte était blanche avec des yeux bleus. Lol, cette phrase. Depuis, la chatte a été prise en charge par la gouvernante, l'ancienne gouvernante de Karl Lagerfeld. Déjà, il avait une gouvernante. Ça te dit tout du rapport classiste du gars. Alors, on peut se dire pourquoi on lui a rendu hommage au Met Gala. En 1871, ils ont créé le Metropolitan Museum of Art, qui était l'idée de mettre en avant des costumes et la mode. Dans les années 50, ça devient un gala de charité pour la haute société. $50 l'entrée aujourd'hui, $35,000.
Je pense que c'est le plus grand entre-soi du monde. Dans les années 70, c'est la rédactrice en chef du Vogue américain qui prend en charge l'événement. Du coup, ça devient un peu plus mondain et star. Puis la grande Anna Wintour le reprend dans les années 90. Et donc là, ça devient vraiment du matu vu. 2004-2005, là, il y a un enjeu de costume qui arrive. Pour les stars, il faut être vu. Il faut que tu sois dans le red carpet. Il y a eu des looks incroyables. Katy Perry en chandelier. Non, mais je pense qu'il y a, il y a eu tellement de looks de ouf. Et puis alors, il y a une guest list aux oignons avec un matu vu, un entre-soi, toujours qui va être invité. Genre, le truc de ouf, c'est que finalement, Anna Wintour a décidé de pas être classiste et elle a commencé à inviter des stars de télé-réalité comme Kim Kardashian et tout. Genre, c'était vu en mode genre, oh, ouais, elle s'ouvre. D'accord. Et moi, je me dis d'ailleurs, si s'ouvrir à Kim Kardashian, c'est ça, moi, je me dis, quelles sont les conversations de ces gens? Ce sont là, genre, tu es riche? Oui, et toi? Oui. Ça doit être tellement chiant. Ça, ça doit être vraiment le dîner le plus chiant de toute la Terre. Et alors, les fonds sont énormes, le rendement de ce gala de charité est de 200 millions de dollars par an au minimum. Et où est l'argent?
Elle va où l'argent?
Le fonds Marianne, peut-être. Je mêle deux histoires qui n'ont rien à voir, mais pour dire rendez l'argent quand même.
C'est quoi ta reco?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire tout ça, pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus arty ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une exposition, au Palais de Tokyo à Paris. Et c'est les derniers jours pour aller la voir puisqu'elle court seulement jusqu'au dimanche 14 mai 2023. C'est une expo qui s'appelle Exposé et qui est donc sur l'épidémie du VIH et du sida. Alors, la description de l'expo parle d'elle-même. Ça parle de, donc, des personnes exposées, donc des personnes qui n'ont pas choisi d'être exposées au virus, à cette maladie et à cette épidémie. Ça parle aussi des personnes qui ont choisi de s'exposer pour rendre visible ce virus, cette maladie et cette épidémie. Et puis, parmi ces personnes, l'expo explique qu'il y a des artistes et parmi ces virus et ces maladies, il y a le VIH, le sida, qui a causé l'épidémie la plus meurtrière du siècle dernier. Cette expo, elle a inspiré du livre de l'historienne Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. Et ce livre-là, il explore les liens entre l'art et l'activisme durant les années sida, donc c'est-à-dire à peu près de 1983 à 1995, en France et aux États-Unis. Et cette expo, exposée, elle s'interroge sur voilà, ce que la crise du sida a changé à la fois dans les consciences, mais aussi dans la création. Et le but, c'est pas tant de faire du sida le thème de l'exposition, mais plutôt, je dirais, un cadre de lecture dans lequel voilà, les artistes vont se poser la question au présent, comment ça nous a impacté cette crise-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut transformer ça et comment, à travers l'art, à travers la beauté, on peut raconter quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est plein d'œuvres percutantes, c'est parfois des œuvres assez violentes, hein. Je ne vais pas vous le cacher. C'est des œuvres aussi très touchantes. Il y a aussi des œuvres militantes qui dénoncent la gestion catastrophique de la crise par les gouvernements. Enfin bref, en tout cas, il y a plein de trucs différents et je pense qu'il y a autant d'œuvres différentes et d'artistes différents qu'il y a d'expériences différentes face au VIH et au sida. Et moi, j'avais un petit peu peur que ce soit vraiment porté uniquement voilà, sur le misérabilisme, etc. Mais pas du tout. Notamment, il y a mon œuvre préférée qui s'appelle Body Map du Bambanani Women's Group. Et en fait, c'est une série de 14 dessins qui sont vraiment grandeur nature et qui utilisent voilà, la forme du corps humain pour cartographier concrètement vraiment ce que le VIH et le sida peuvent faire vivre vraiment dans le corps des personnes concernées. Donc à travers des symboles, des couleurs, mais aussi des mots. Et voilà, donc c'était l'artiste Jane Solomon qui a travaillé avec 14 femmes qui ont utilisé ces dessins avec le contour de leur propre corps pour visualiser le virus et tous ses effets psychologiques, émotionnels et physiques à travers l'art. Et donc, ces 14 femmes, elles ont fondé le Bambanani Women's Group, ce qui signifie se tenir ensemble et s'unir en langue bantoue. Voilà, les membres du groupe continuent toujours, encore aujourd'hui, de travailler avec d'autres personnes qui vivent notamment avec la maladie. Et j'ai trouvé ça vachement touchant parce que au cours même de ma thérapie, ma psy m'a beaucoup dit de ressentir les émotions, de ressentir les traumatismes dans mon corps. Et le fait de les dessiner, de les montrer sur les contours de son propre corps, je trouve ça hyper touchant. Et je pense que ça aide à gérer, à nommer, à identifier l'impact émotionnel des personnes face au sida. Et donc, je trouve ça super cool. C'est vraiment une de mes œuvres préférées. Je vous recommande d'aller la voir soit au Palais de Tokyo ou même de la googler et de vous renseigner sur le sujet. Et puis, il y a eu un podcast du média Manifesto 21 en partenariat avec le Palais de Tokyo qui parle de l'angle lesbien, okay, de la crise du sida et qui s'appelle « Ce que le sida a fait aux lesbiennes ». Et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a un seul épisode qui est sorti pour le moment. Je vous recommande de l'écouter. Et en gros, l'angle, c'est voilà pourquoi et comment les lesbiennes ont marqué la lutte contre le VIH et le sida en France, et qu'est-ce qu'elles en ont hérité, qu'est-ce qu'on a hérité de tout ce militantisme lesbien aujourd'hui. Voilà, et dans l'épisode, il y a Clémence Alezard, il y a les cofondatrices des Dégommeuses, il y a également une membre de Désinverties, il y a une art-thérapeute, enfin bref. Il y a plein d'invités, je trouve que le sujet est super intéressant, cet angle des lesbiennes est intéressant et c'est à écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis l'exposition exposée est à voir au Palais de Tokyo, à Paris, jusqu'au dimanche 14 mai 2023. Dépêchez-vous.
Ok, il faut y aller vite.
Ouais, c'est les derniers jours.
Ah ouais. Ouais.
Bah merci Audrey, on sait quoi écouter, quoi aller voir. C'est terrible, mais il est déjà temps de se dire au revoir.
Ah non!
Je sais. Quelle comédienne, je rigole. Tani, merci de nous donner de la force et du rire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous rappelle qu'il faut aller le 12 juin à l'Européen pour notre soirée spéciale Mutup x Comedy Love en soutien à la Pride des banlieues. Allez au Palais de Tokyo, n'allez pas au Met. De toute façon, vous n'avez pas les moyens. Lol, blague de pauvre. Allez, on vous embrasse, bisous et à jeudi prochain.
Merci Tani, merci. Et bravo les lesbiennes.
Bravo oui. Les lesbiennes, merci de m'avoir invitée.
Les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes, animée par
Mao Drama
et Audrey Coupé de Kermadec. Produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Chargée de production, Cassandra de Carvalho.